Bonjour à tous sur GDS Info, on est ici avec Vinista.
Bonjour.
Les élèves ESA du lycée Jules Beaufort ont récemment fait un travail sur le quartier du Toulon. Donc nous allons recevoir trois personnes aujourd'hui pour parler de ce projet. Donc tout d'abord Noémie.
Oui, bonjour.
Amy.
Bonjour.
Et Chloé.
Salut.
Donc tout d'abord, on va voir le quartier du Toulon. Sur plusieurs aspects. Sous l'aspect d'un quartier excentré par rapport au centre-ville de Périgueux.
Que nous verrons avec d'ailleurs maintenant un reportage fait par les élèves de la classe première SA.
Le Toulon est à distance par rapport à l'hypercentre de Périgueux, ce qui peut le faire passer pour un quartier excentré.
De plus, le quartier est façonné par la nature et particulièrement par la rivière Lille, qui empêche le développement de la superficie habitable vers le sud. Par conséquent, le quartier prend une forme allongée, ce qui peut poser un problème. Plus l'on se positionne à l'ouest, donc en direction du Bas-Toulon ou encore du Privilège, plus on est excentré par rapport au centre-ville, et plus il est difficile de joindre ce dernier.
Par conséquent, il est possible de se trouver à 4 km ou à seulement 1,5 km du centre-ville, tout en restant dans le même quartier. Par ailleurs, on observe qu'il n'existe qu'un axe de transport sur lequel il est possible de se déplacer. Il s'agit du prolongement de la route d'Angoulême, la rue Pierre-Sémard, qui débouche sur la rue Victor Hugo.
Cette situation géographique particulière est propice à l'apparition du phénomène de tunnel. Le Toulon ne possède pas de dispositif important de stationnement et n'est que peu attractif avec les activités qui y sont proposées. Par conséquent, peu s'y arrêtent, excepté les habitants. On découvre ici donc le principal problème de ce quartier, c'est un lieu de passage et non pas d'arrêt.
On observe aussi une difficulté à rejoindre facilement les équipements importants qui sont considérés comme structurants.
Cette difficulté touche principalement les modes de transport doux, comme le vélo, l'overboard ou encore le déplacement à pied. Par exemple, il peut paraître impensable pour certains habitants des HLM autour du Sans Réserve de faire entre 35 et 45 minutes de marche à pied pour s'acheter un simple bloc-notes à l'espace culturel de Leclerc.
De la même façon, il est désagréable de traverser la ville pour rejoindre la zone commerciale de Trélissac-Boulazac. Par ailleurs, le quartier du Toulon a la chance de côtoyer en tant que voisine la voie verte. Cette dernière offre une solution alternative et permet aux habitants du quartier du Toulon de se déplacer autrement grâce à l'intermédiaire de ce que l'on pourrait appeler une bretelle rattrapant la voie verte. Grande nouvelle pour cette dernière, elle remporte un grand succès de fréquentation. Elle a même terminé deuxième au prix européen des voies vertes en 2007.
Ainsi, accueillant piétons, cyclistes et adeptes du roller, la voie verte dévie un atout considérable et sécurité pour les habitants du Toulon et du reste de l'agglomération. D'autre part, le quartier du Toulon offre une autre possibilité, les transports en commun. En effet, Périgueux accueille le Péribus et cela depuis son entrée en service en 1987.
Incomparable au tramway de la ville voisine de Bordeaux, ces bus ne comblent que 4% du total des transports utilisés à Périgueux.
Intéressons-nous maintenant aux perspectives d'avenir envisagées donc à la dimension travaux. Certains ne sont encore qu'à l'état de projet, mais d'autres sont en cours de réalisation. On observe et distingue ainsi clairement deux types de travaux concernant le quartier du Toulon.
Une double échelle est utilisée, les travaux de proximité et les travaux à échelle élargie.
Il est maintenant possible de décrire le projet qui se partage entre quatre phases de travaux bien distinctes, qui de manière optimale devraient faire oublier les éléments négatifs du quartier du Toulon.
La première phase a déjà été réalisée fin 2016. Le but était de faire de la route d'Angoulême la colonne vertébrale du quartier. Pour être plus précis, la mairie voulait rendre visibles les équipements et les commerces du quartier, ainsi que leur donner un meilleur accès en créant des places de parking supplémentaires.
La sécurité était également à l'honneur à travers l'élargissement de nombreux trottoirs, un détail important assurant tranquillité aux écoles à proximité. La mairie a par ailleurs voulu s'assurer de la réussite de son projet en installant par exemple des appareils de comptage automobile.
Passons maintenant à la deuxième phase. Elle a pour but d'organiser une centralité au Bas-Toulon dans une période correspondant au début de l'année 2017. Cette phase se concentrera autour du Sans Réserve, du gymnase et d'une résidence Périgueux Habitat. Un meilleur accès et une meilleure visibilité seront encore une fois l'effet recherché. En attirant piétons, cyclistes et automobilistes, les travaux diminueraient l'effet de tunnel.
En effet, après la réalisation des travaux, les gens auront la possibilité de s'arrêter, rendant le quartier plus vivant et attractif. Cela permettrait également de relancer l'activité économique et dynamique du quartier. Les deux autres phases se dérouleront fin 2017 et au cours de l'année 2018.
Elles auront pour but d'ouvrir le parc de la Source, de développer ses usages et de confronter un quart de quartier autour de la place de Verdun. La manière d'effectuer ces modifications est encore floue, puisque la mairie attend le retour des habitants. Tous ces aménagements permettront, on l'espère, de faire oublier les désagréments dont est victime le quartier.
On peut voir, le quartier du Toulon se concentre également et est né et a vécu du Technicentre, de la SNCF.
Alors on sait que le Technicentre, donc on va faire l'histoire avec un petit reportage. Donc c'est vraiment un quartier qui s'est fait uniquement autour du Technicentre, un quartier ouvrier. Et je propose qu'on écoute tous ensemble un reportage.
Bonjour. Vous voulez vous présenter ?
Bonjour, Patrick Capot. Donc, j'ai 56 ans. Je suis rentré à la SNCF en 1977 au centre de formation des apprentis du matériel de la SNCF à Périgueux. À l'issue de mes 2 années d'apprentissage, j'ai donc embauché en 1979 aux ateliers du Toulon à Périgueux.
Donc, en tant qu'interne, quel sentiment se dégage aujourd'hui ? Y a-t-il des tensions et du manque de dynamisme ?
Alors, vous comprendrez que je serai à la retraite l'an prochain. Et j'ai donc connu la SNCF dans les années 80, en particulier pour ce qu'elle présentait comme essor important du matériel. Avec l'arrivée de la grande vitesse dans les années 90, le développement de la grande vitesse dans les années 2000, et donc une SNCF en plein développement industriel, en pleine réorganisation sociale et en pleine réorganisation technique et technologique des grands établissements comme le nôtre.
Personnellement, qu'est-ce que l'on ressent à l'annonce de suppression d'emploi des camarades cheminots ?
À ce stade, donc, nous sommes en 2017, en début d'année, effectivement, il a été annoncé de la part de la direction SNCF la suppression de 90 emplois. Donc, vous voyez, on est à 500 emplois, on se retrouverait à moins de 400 emplois. À cette heure, on n'a toujours pas réponses aux questions qu'attendent les cheminots, à savoir le renouvellement des charges de travail, à savoir aujourd'hui quel développement industriel, quel développement technique et technologique pour remplacer les voitures qui ont roulé depuis les années 80 jusqu'à ces jours-ci, donc qui ont 35-40 ans d'âge.
Pour vous, quelle est l'espérance de vie du Technicentre ? En quoi le Technicentre est-il une structure du quartier de Toulon ? Et est-ce qu'il y a un lien avec Coulonnier-Chamiers ?
L'avenir du Technicentre, il sera ce que les cheminots et les usagers à leur côté en fera. Je veux dire que il n'est pas pensable pour les cheminots d'accepter de manière inéluctable la suppression de l'emploi industriel. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a encore des trains qui roulent. Nous, on dit qu'aujourd'hui, pour préserver à la fois la qualité des déplacements, pour préserver l'environnement, parce qu'il y a un enjeu économique important autour des transports de ville à ville, pour les déplacements dans toute la France. Le lien direct avec Chamiers. Il n'y a pas vraiment de lien direct. Il faut savoir que, historiquement, l'atelier de Chamiers traite de la voie, donc ce qui permet au train de circuler. Et l'atelier du Toulon est resté un atelier réparateur de ceux qui circulaient sur la voie, du matériel qui circulait sur la voie. Néanmoins, les deux sites sont liés et l'avenir des deux sites est directement lié à l'activité ferroviaire. Le lien entre le Technicentre industriel Charente-Périgord au Toulon et les ateliers de Chamiers est fort parce qu'on a l'ensemble des éléments et tous les maillons de la chaîne des transports. L'un pour la voie ferrée, l'autre pour le matériel qui circule sur cette voie ferrée.
On sait que le quartier du Toulon pose certains problèmes, pas forcément un manque d'infrastructures. On sait que c'était un quartier ouvrier qui s'est formé autour du Technicentre, comme on vient de le voir, qui avait d'ailleurs une part très importante. Seulement, il y a eu de nombreux aménagements qui ont été faits pour aider au quotidien des citoyens. Comme par exemple la construction de la filature. La filature, qu'est-ce que c'est ? Nous allons voir ça tout de suite dans un reportage.
Le quartier du Toulon est un ancien quartier ouvrier qui a évolué grâce à la création du Technicentre. De plus en plus d'infrastructures se sont construites au cours du temps, et celle à laquelle nous allons nous intéresser est la filature de l'île.
Nous allons en effet voir si celle-ci profite aux habitants du Toulon.
Pour le rappel, entre le 19e et le 20e siècle, les habitants étaient essentiellement des ouvriers qui travaillaient au technicentre, donc détachés du centre-ville. Aujourd'hui, on constate un mélange de classes sociales plus intense qu'auparavant.
Pour voir si celle-ci profite aux habitants, nous nous sommes d'abord intéressés à l'historique de la filature pour mieux comprendre son évolution. Ensuite, nous verrons les fonctions du lieu aujourd'hui pour enfin conclure sur les différents adhérents de la filature.
Pour la partie historique de la filature, nous avons rencontré Martine Ballot qui travaille au service d'art et d'histoire à la mairie. Dans le cadre du projet Café Architecture et Patrimoine, celle-ci a travaillé sur l'histoire de la filature. Elle a pu nous expliquer les nombreux changements des lieux. À l'origine, c'était une filature de laine alimentée par le moulin neuf qui se trouve à côté. On a donc conservé le nom de la filature. Sous le Second Empire, Pierre Courtet, le maire de Périgueux, est à l'origine du domaine. La famille Courtet est aussi propriétaire du château des Isards et transmet son patrimoine de génération en génération.
Quand la filature ferme, elle devient une usine de costumes qui fera faillite peu de temps après pour devenir une usine de fêtes qui compte 70 ouvriers à partir de 1870. Celle-ci ferme également en 1950 et devient une fabrique de vêtements pour hommes appelée Société industrielle de création masculine jusqu'en 1997.
Ces nombreuses fermetures sont un coup dur pour l'économie du quartier car elles ont supprimé de nombreux postes d'ouvriers. Aujourd'hui, la filature est devenue un lieu culturel et sportif qui génère peu de profits. L'utilité du lieu a donc bien évolué. C'est ce que M. Borderie, directeur de la création de la filature, nous a expliqué en nous présentant les fonctions du lieu actuellement. Il nous explique d'abord comment s'est passée la création des lieux.
Ça a mis, il a fallu compter à peu près deux ans d'études, programme études, et ça s'est étalé sur trois ans de travaux.
Ensuite, les raisons du projet.
Tant de ce qui se passait à l'époque à la salle du Toulon, les grands repas, les animations, des expositions, des choses comme ça, ça se passait à la salle du Toulon, qui était une salle qui n'était pas chauffée, enfin bon, il n'y avait pas trop de confort. Donc le programme, il s'est bâti autour de ça.
Enfin, il nous présente les fonctions du lieu.
Il y avait aussi une demande d'activités sportives autour des salles de la boxe, qui était à la salle du Toulon aussi, qui était trop à l'étroit. Donc le projet s'est monté autour de ça, la salle de réception, la cuisine qui va avec, les salles de boxe, et salles de réunion, et puis l'accueil, on gardait les locaux à l'entrée pour les bureaux, et notamment le service des sports qui avait plus de place pour ces bureaux. Quoi. Et puis au fur et à mesure que ça a avancé, il y a d'autres choses qui sont greffées là-dessus. Il y a eu le dojo, l'activité judo, les associations, on dit il y a encore de la place. Donc ça a évolué en salle de judo, après salle de danse. Et puis la dernière tranche a été plutôt la tranche culturelle, c'est où il y a le sans réserve, le Liémer et le Roule-Tabille. Ces gens-là ont besoin depuis quelques temps aussi de locaux.
Au total, un projet de 8 millions d'euros qui crée un lieu de convivialité et d'association. Mais est-ce que ce lieu profite aujourd'hui aux diverses habitantes du quartier du Toulon? Eh bien, la réponse est à la fois oui et non. Bien évidemment, elle profite aux habitants. Et c'est ce que nous explique M. Borderie.
On parle de la salle de réception, c'était à la salle du Toulon, donc c'était juste à côté, la boxe aussi. Et effectivement, dans ce quartier, il y avait peu d'activités. Le sans réserve, par exemple, l'activité sans réserve, c'est la salle de musique. Elle est aussi au Toulon, donc c'est une proximité. Et il y avait peu de salles de quartier, effectivement, dans ce coin-là, à part la salle de Rio, qui est toute petite, quoi, finalement. Il n'y avait pas vraiment d'aménagement. Je pense que ça a servi, oui, effectivement, aux gens du quartier, oui.
Mais la filature profite aussi aux habitants du Grand Périgueux, car le quartier du Toulon se voit beaucoup moins excentré et plus en relation avec le centre-ville qu'avant. C'est donc un lieu qui a subi de nombreux changements au cours des siècles, tout en changeant ses fonctions et objectifs. Aujourd'hui, la filature profite tant aux artistes qu'aux sportifs, sans compter les autres associations qui y demeurent. Un lieu d'échange et de convivialité qui profite aux habitants du quartier comme aux habitants de la périphérie.
Les passionnés de musique pourront aussi se retrouver dans le quartier, avec l'association Le Sans Réserve qui va vous être présentée dans le reportage suivant.
Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il y avait sur Périgueux avant le Sans Réserve pour les jeunes?
Alors, est-ce que le sans réserve est pour les jeunes? Le public qu'on touche au sans réserve, c'est de 14 à 65 ans. La majorité du public, c'est de 18 à 35. Mais suivant les styles qu'on va faire, en fait, c'est pour tous les publics, quoi. Ouais. C'est pas que pour les jeunes. Et puis, avant le sans réserve, il y avait beaucoup d'associations, en fait. Et ça, ça a été primordial. C'est même elles qui ont pu se mobiliser pour que le sans réserve soit créé, quoi. Elles sont allées mettre la pression à la collectivité, à la mairie, en disant nous, on veut un lieu pour faire de la musique, pour jouer, pour s'entraîner, mais aussi pour aller voir des concerts. Les mairies, elles savaient plus avant construire un théâtre, pour y faire de la danse, enfin, sur d'autres esthétiques, mais pour y faire des musiques actuelles, on était dans les années 90, relativement récents là-dessus. Quoi. Donc il a fallu qu'elles rament un peu les assos, elles sont mises quand même ensemble, et elles ont fini par avoir l'idée d'une part, mais d'autre part la conviction pour que la mairie puisse accepter de construire un lieu. Quoi.
Et du coup, est-ce que dans les années 90, il y avait des jeunes qui demandaient cette structure?
Je pense qu'effectivement, à cette époque-là, c'était relativement plus jeune. Mais sauf que dans ces années 90, comme on était, ça, le public a aussi vieilli. Des jeunes qui avaient entre 15 et 20 ans dans les années 90, quoi, qui se sont mobilisés, ont vieilli, mais sont tout le temps là encore, sur les concerts. Et après, il y en a d'autres qui arrivent derrière, avec d'autres esthétiques aussi, qui arrivent avec des passages, et ça se renouvelle.
Quels étaient les objectifs des associations qui étaient à la base de la création du Sans Réserve?
Bon, elles vont avoir des objets différents, suivant ce qu'elles, comme toute association, vous connaissez, les gens ils se regroupent ensemble pour quelque chose qu'ils ont envie de défendre. À Périgueux, la particularité qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu quelques groupes qui se sont mis en fait ensemble, et il y a des groupes qui sont un peu exportés, qui sont allés jouer un peu à l'étranger. Hétéro, quoi. Qui fait que, du coup, il y en a qui ont envie d'aller un peu plus loin. Et du coup, ces groupes-là, ils avaient aussi envie de jouer ici, là où ils vivaient, là où ils étaient, quoi.
Et on a appris aussi qu'entre-temps, le nom, il avait changé, du Sans Réserve.
En 2008.
Pourquoi?
Alors, quand je suis arrivé, moi, en 2002, j'ai dit à la mairie, j'ai dit, vous savez qu'il y a un lieu qui s'appelle à Paris, qui s'appelle le Réservoir, qui est en fait un restaurant avec une salle de concert de 300 places. En 2007, n'oubliez en fait, ils sont en vente de la FNAC, etc. Et la FNAC a merdé, quoi. Ils ont mis en fait un concert en vente de eux qui avaient programmé à Paris et ils l'ont mis dans nos ventes. Alors, heureusement, il n'y a pas eu d'histoire de thunes puisque il n'y a eu aucune place vendue. On s'en est rendu compte rapidement, on a tout occupé, quoi. Mais là-bas, à Paris, la directrice a répété du plan. Et donc, elle m'a assommé, c'est le terme, je vous donne 15 jours pour changer de nom, sinon je vous lâche ma horde d'avocats au cul. Pour arriver, du coup, à le Sans Réserve, c'est-à-dire Sans Réservoir. On a voulu rester un peu sur la même dynamique pour dire que la structure ne va pas changer, le projet ne va pas changer, mais du coup, on est obligé, tout de même, de changer le nom.
Et pourquoi cet emplacement? Pourquoi le choix de
emplacement? C'est une très bonne question. Et donc dans les années 90, à cette époque-là, on est encore sur des dichotomies entre ce qui peut se passer dans des quartiers, où des fois c'est chaud, les bagnoles sont cramées, enfin il y a des délinquants, je ne bouge pas ce truc, quoi. Et du coup, les élus se disent, on a deux options possibles. L'État avait commencé à faire en sorte que des politiques et donc du fric soient mis dans les quartiers, pour, entre guillemets, je caricature un peu, occuper les jeunes, quoi, pendant qu'ils vont aller écouter la musique ou faire la musique, ils ne feront pas de conneries. C'est une autre tendance qui était de dire non, ces lieux-là, ils doivent exister en plein centre-ville, là où tous les gens sont, le théâtre est dans le centre-ville. Pourquoi on va aller excentrer une salle de musique actuelle au fond du lieu? On était vraiment sur cette dichotomie-là où certains se disaient non, on les éloigne, d'autres disent non, en plein cœur du centre-ville. À Agen, ils l'ont fait en plein cœur du centre-ville. Et donc là, à Périgueux, ils ont fait le choix, ici, qui pour moi est important, c'est que c'est un choix économique qu'ils ont fait, c'est-à-dire que la salle, c'est un gymnase en fait, et ils ont fait une boîte dans la boîte. Le coût, elle est quand même relativement réduit.
Et les associations, elles sont toutes locales?
Ah oui, alors ça, c'est aussi, c'est vraiment une particularité. Quand je disais qu'on a bossé avec 20 assos différentes l'année dernière, c'est que des assos locales. Après, ça n'empêche pas d'aller accueillir un groupe japonais, un groupe africain, enfin, etc., qu'on accueille. Là, on bosse avec des professionnels, mais sur la première partie, on va tout le temps y rattacher. Parce que je crois, moi, entre la première partie, qui sont souvent des amateurs et des professionnels, et entre cette rencontre-là, qui peut déclencher des choses chez les gens.
Quelle est la politique culturelle du Sans Réserve?
Alors, toute la politique culturelle, le projet qu'on appelle projet artistique et culturel, il repose sur trois axes. Donc celui qu'on entend le plus, c'est ce qu'on appelle vulgairement la diffusion, qui est la programmation en fait de concerts, des groupes nationaux ou internationaux, des premières parties locales, des co-organisations et des associations. Ça, c'est le premier volet du projet. Le deuxième volet du projet, c'est l'accompagnement des pratiques et la création. Pour ce faire, donc on dispose d'un lieu de répétition. Ce secteur-là, il est là pour aider les jeunes ou moins jeunes qui veulent pratiquer en fait un instrument, qui veulent jouer ensemble, etc., à les aider à développer leur projet. Et le troisième volet, en fait, c'est ce qu'on appelle l'action culturelle, et qui est plus là pour essayer de donner accès à des publics qui n'y auraient pas forcément accès.
Quel est l'avenir du Sans
Réserve? On est une association. Le budget, c'est 65% de financement public, 35% en fait de recettes qu'on va avoir, ce qu'on appelle nos recettes propres. Si comme actuellement, on est en train de constater, les finances publiques, de manière générale, vont mal. En fait, ce qu'ont souvent des collectivités, c'est qu'elles baissent des choses qui, pour elles, sont un peu à la marge et qui pour moi, c'est carrément essentiel, même en des périodes de crise, c'est la culture. Et forcément, si on baisse les budgets de fonctionnement, avec, quand on a 65% de fonds publics, eh ben, soit on va faire moins d'actions, soit on va... Donc l'avenir du sans réserve, il est encore un peu incertain. Parce que aussi, je pense que le lieu qui est né en 2000, il va falloir penser aussi à un nouveau sans réserve.
Et donc, nous pouvons constater que les associations du Toulon ont grandement participé à la création du sans réserve. Je propose que l'on regarde maintenant un reportage sur les différentes associations du Toulon et leur impact dans la vie quotidienne.
Alors, notre association, elle s'appelle l'AEET, donc l'Association pour l'école élémentaire du Toulon. Et c'est pas l'originalité, c'est pas une association de parents d'élèves, c'est une association d'école, c'est-à-dire qu'il y a un président et un président adjoint. Et c'est une association où il y a donc à la fois des parents d'élèves, mais aussi des enseignants. C'est-à-dire que, contrairement aux autres écoles traditionnelles, il n'y a pas de coopérative scolaire. Et c'est l'association qui gère toutes les finances de l'école. Donc nous, on, parents et enseignants, on récolte de l'argent toute l'année avec des manifestations diverses. Et tout cet argent est destiné à financer les activités pédagogiques, les sorties. Donc les sorties de fin d'année, mais aussi tous les projets pédagogiques, le musée, la piscine, enfin tout ce que peuvent faire les enfants pendant l'année. Voilà.
Vous faites quoi comme manifestation ?
Alors, dans l'ordre chronologique, en novembre, on a un vide-grenier. En décembre, on a le marché de Noël. En février, on a c'est gratuit, on a carnaval. Et après, les grosses manifestations, c'est le trail. Je pense que vous avez vu peut-être l'affiche sur Facebook où on fait un trail. Et ensuite, un marché aux plantes. Et évidemment, en dernier lieu, en juin, la kermesse. Voilà. Et chaque manifestation, on vend des choses. Ou par exemple, le trail, chaque participant paye 12 euros pour avoir le droit de courir dans la forêt. Et voilà, chaque manifestation permet de recueillir de l'argent pour financer les activités pédagogiques.
Et comment vous financez ces manifestations ?
Alors, on a une petite subvention de la mairie, souvent. On a parfois, pour certaines sorties, par exemple, on peut avoir des subventions de l'État. Enfin, c'est des trucs un peu compliqués en général, mais voilà. On avait jusqu'à présent une subvention du comité de quartier, mais voilà, je crois que voilà, on peut couper.
Oui, on coupera dans le.
et voilà, sinon bah, c'est de l'argent, c'est des particuliers qui donnent de l'argent, qui achètent des gâteaux, et tout ça, ça finit dans des caisses de jouets quoi.
Et quand est-ce qu'elle a été créée, l'association ?
Elle a été créée il y a une dizaine d'années. Moi, je suis là depuis 3 ans, mais elle a été créée il y a une dizaine d'années. Donc, en fonction des bonnes volontés, il y a des années très fastes où on s'est retrouvé avec 11 ou 12 000 euros sur les comptes. Et puis, il y a des années plus maigrelettes, comme en ce moment, parce qu'il y a moins de bonne volonté. On fait un peu toujours les 2-3 même. Donc, voilà. Parfois, il y a plus de parents. C'est plus maître. Voilà, donc moins de sorties pour les enfants du coup.
Il y a combien de membres à peu près ?
On est on va dire une trentaine. Voilà. Ceux qui sont à jour de leur cotisation, on va dire 30 sur je crois qu'il y a 160 enfants dans l'école. Donc sur 160 familles, il y a 30 familles qui sont à peu près régulières, quoi, qui participent régulièrement, plus les 6 enseignants de l'école, évidemment, parce que chaque enseignant est membre de fait de l'association.
Vous-même, vous avez des enfants à l'école ?
Voilà, j'en ai 3 à l'école. Et il faut, oui, je suis obligée de préciser qu'à part les enseignants, évidemment, il est obligatoire d'avoir des enfants dans l'école pour être membre de l'association. Ah, okay. Pour que ça tourne un peu, pour éviter que les mêmes restent dans l'association pendant 10 ans.
D'accord. Et Constance ?
Grâce au reportage suivant, nous allons voir quelle est la politique de la ville au sujet du quartier du Toulon.
En 2007, le quartier du Toulon était un vieux quartier ouvrier. En construction, ce lieu de résidence avait subi une baisse d'habitants d'environ 25 000 ouvriers. De ce fait, les maisons restèrent à l'abandon. De plus, la population de ce quartier est vieillissante et les inégalités sociales et économiques entre les habitants augmentent. Cela a eu pour conséquence qu'en 2007, ce quartier fut repéré comme sensible et fit donc partie du contrat urbain de cohésion sociale, le CUCS, en tant que quartier de priorité 3, c'est-à-dire moins en difficulté que d'autres quartiers de Périgueux, comme le Gour de l'Arche, de priorité 1. L'objectif était alors dans le CUX de donner une valeur à ce quartier du point de vue économique, symbolique, son image, physique, ses espaces et son habitat, et de l'usage, les services de proximité, l'égalité d'accès aux services et les équipements publics.
Des interventions ont été faites pour aider à lancer la transformation du quartier, notamment la construction de la filature, l'aménagement du parc de la Source, des aides aux propriétaires pour rénover leur logement, comme par exemple la première opération programmée d'amélioration de l'habitat, ou encore la création du centre commercial Le Privilège. En 2011, le quartier du Toulon n'est plus considéré comme prioritaire. Il devient un quartier sensible. Autrement dit, un quartier avec des difficultés économiques et sociales, un fort taux de chômage et un pourcentage élevé de familles nombreuses, dont certaines sont d'origines étrangères. On trouve aussi des jeunes en échec scolaire, ce qui augmente la délinquance. Bien que le quartier soit un peu vieillissant, la part des jeunes entre 15 et 29 ans en 2011 dans le quartier du Toulon est seulement de 20%, ce qui est en dessous de la moyenne pour Périgueux, étant de 25%. Cependant, le quartier est également en dessous de la moyenne pour les personnes de plus de 75 ans. De ce fait, la population du Toulon est surtout composée de personnes d'âge intermédiaire.
De plus, le quartier stagne. En effet, dans ce quartier, les gens y vivent longtemps. En 2011, 65% des habitants habitent le quartier depuis plus de 5 ans, avec une part importante de petites maisons individuelles. Ce type de logement est très recherché, ce qui explique que la plupart sont occupés par des personnes qui sont propriétaires et non locataires. Elles se vendent à prix très raisonnable, ce qui permet à des ménages avec des revenus très moyens de s'installer. Néanmoins, sur le Toulon, les niveaux de dépendance aux prestations sociales sont marqués. 21% des allocations de ces quartiers touchent des prestations qui constituent la totalité de leurs revenus. Et pour près d'un tiers d'entre eux, les prestations représentent la moitié de leurs revenus.
Aujourd'hui, c'est un quartier qui va mieux et qui n'est plus un quartier prioritaire. Les écarts se sont réduits. Il est en voie de boboïsation. Mais les progrès sont encore fragiles et il faut continuer les efforts pour conforter sa nouvelle attractivité. Renouvellement de la population, jeunes ménages qui investissent, une vie de quartier très active avec des associations très impliquées. Donc c'est un quartier qui reste sous surveillance active. Mais qui nécessite encore de nombreuses actions pour continuer à le redynamiser et le raccrocher au reste de l'agglomération. À court terme, d'ici 2020, la stratégie du contrat de ville de l'agglomération et le projet municipal Périgueux en mouvement et ses ateliers participatifs urbains, habitants, associations, commerçants. Le travail sur le Toulon n'est pas qu'à l'échelle de Périgueux, mais de toute l'agglomération, car c'est le cœur d'agglomération qui se doit d'être fort et c'est une entrée de ville importante pour l'attractivité de Périgueux et de l'agglomération, notamment touristique.
Donc nous en avons fini avec les reportages. Maintenant, je propose qu'on s'attaque au débat, on peut appeler ça comme ça, avec les trois personnes qui nous ont rejointes. Donc vous êtes des élèves du lycée G de Beaufort en classe de première ESA. Donc c'est vous qui avez travaillé sur tous ces reportages. Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire ce travail sur le quartier du Toulon?
Alors personnellement, ça m'a très enrichi. C'était très intéressant. Il y avait plein de choses à découvrir que je ne savais pas sur le quartier. Donc c'était plein d'informations. C'était très bien.
Est-ce que ça vous a aidé aussi à apprendre des choses, Chloé, ou c'était juste un travail comme ça parce qu'il fallait le faire?
D'une manière générale, c'est vraiment quelque chose d'intéressant puisque on a.
Merci. D'une manière générale, c'est vraiment quelque chose d'intéressant puisqu'on a pas mal d'informations sur les. Mais. Sur les phases actuelles de notre société, comme par exemple l'ubérisation, la place des
professeurs. C'est du direct.
D'accord. Donc, c'était quelque chose de très intéressant parce que, pas uniquement dans le cadre du quartier du Toulon, on avait des informations sur les débats actuels dans notre société. On peut par exemple donner l'exemple de l'ubérisation sur laquelle on a travaillé, sur les brevets au niveau des inventions qui sont faites chaque jour, ou même de la place du burkini sur nos plages, des débats sociaux, des débats économiques, et même des débats scientifiques. Donc ces émissions ont apporté en général de la culture générale aux élèves.
D'accord, alors je tiens juste à m'excuser pour le petit problème technique. Donc on va continuer maintenant avec Amy qui va nous donner son point de vue sur les différents travaux qu'il y a eu au cours de cette année.
Alors moi, mon point de vue, c'est que j'ai trouvé ça hyper intéressant par rapport aux gens qu'on a rencontrés, parce que ça nous a permis de nouer des liens, avoir un contact avec l'extérieur, ça nous a appris à nous responsabiliser et à prendre des initiatives. Je trouve que c'était intéressant parce qu'un projet, c'était des projets fondés et très très bien organisés. C'était fait sur des semaines et 2-3 semaines, des périodes où on avait le temps de travailler et de poser le projet. Et en plus, on devait prendre contact avec des gens, des adultes. Donc, on a appris à parler, on a appris à travailler seul et en groupe, et on a surtout appris à être avec des gens plus âgés et du coup à échanger. Et je sais que le projet concernant le quartier du Toulon m'a beaucoup plu parce qu'on était avec des étudiants en université, donc le post-bac, et on a pu échanger de nos expériences et avoir comment ça pouvait se passer pour nous plus tard.
Tout le monde avait quelque chose à apporter, en fait, des informations, et tout le monde se complétait.
Voilà, d'ailleurs, comment ça s'est passé avec les élèves de l'IUT, de Périgueux ?
Ben, ils nous ont apporté quand même pas mal de précisions sur la façon dont ils travaillaient, dont nous on travaillait, on a comparé, on a analysé. Ils nous ont, par exemple, après avoir écouté nos reportages ou notre travail, ils nous ont donné des conseils pour nous améliorer, ils nous ont félicité pour ce qui était bien. Et d'une manière plus générale, en fait, le projet du Toulon, comme tous les autres projets, ça nous apporte des connaissances sur le post-bac, sur les métiers du journalisme, ça peut passer du débatteur, comme aujourd'hui, à présentateur ou même à reporter.
Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous dire, après, combien vous avez fait de projets de ce type au cours de l'année, des projets radio, des projets en groupe?
Semblable à cela, il y en a eu à peu près 4, si je me souviens bien. Ils ont tous été... dans les premiers temps, ça a été compliqué de mettre en œuvre le travail de groupe, travailler avec les micros et avec d'autres personnes aussi. Et au fur et à mesure, ça a été très enrichissant pour tous, d'ailleurs. Savoir travailler en équipe et se compléter, ça a été un très bon travail. Et le dernier, donc le quartier du Toulon, avec les élèves du DUT, a été vraiment un succès.
Et oui, on a vu aussi l'évolution, en fait, par rapport au début de l'année, où au début de l'année, c'était souvent des thèmes sur la sociologie. Donc, c'était des thèmes assez basiques. Et plus on avançait dans le temps, et plus on avait un mélange avec de l'économie, et on avait des projets vraiment qui étaient préorganisés, qui étaient très, très intéressants et beaucoup plus complexes. Et donc, avec des études de cas, et voilà.
Est-ce que vous avez été aidé par vos professeurs, Chloé ?
Oui, bien sûr. Par exemple, pour nos projets radio, très souvent, on avait des dossiers documentaires qui nous étaient fournis pour nous aider à comprendre le sujet ou du moins à le bosser. On ne faisait pas vraiment toutes les recherches nous-mêmes, mais bien qu'une grande partie soit aussi de nous. Mais ils ont vraiment été d'une grande aide. En plus, ils conseillaient, ils étaient attentifs à ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et au final, ça nous a permis de nous améliorer tout au long de l'année.
S'il y avait quelque chose à redire sur ces émissions, que vous diriez-vous ?
Quelque chose pour améliorer ?
C'est une bonne question. Moi, pour ma part, je trouve que c'était bien. Les élèves du DUT ont beaucoup apporté, eux aussi, de leur expérience, des conseils. Moi, personnellement, je referais la même chose.
Et Amy ?
Personnellement, pour améliorer, juste en faire plus souvent parce que c'est génial, et aussi travailler avec des gens qui sont issus des universités et UT beaucoup plus souvent parce que, étant donné que voilà, on va passer en terminale et on va passer le bac, je trouve que c'est un plus de travailler avec des gens de cet âge-là.
Je rejoins complètement l'avis d'Emmy parce que le post-bac, c'est super important, surtout que là, en fait, ça permet d'explorer les métiers sur l'information et ça rejoint complètement des objectifs de la filière ES. Du coup, c'est vrai qu'il faudra en faire plus souvent parce que c'est vachement intéressant et si on pouvait bosser avec des gens qui pourraient nous intéresser pour le post-bac, ce serait génial.
Vous parlez beaucoup de l'APB. Est-ce que ce serait, pourquoi pas, une voie à explorer dans l'admission post-bac pour votre avenir ? On va commencer par Chloé.
À titre personnel, je veux être journaliste, donc c'est quand même utile ce genre de reportage.
Oui, ça c'est sûr. Amy, ça vous intéresserait ?
Moi, c'est
pas du tout mon ma filière, c'est pas du tout le domaine que dont je veux me le domaine dans lequel je veux me lancer, mais je trouve que c'est une super expérience et c'est très enrichissant et ça apprend à grandir, ça apprend à prendre de la maturité, de la responsabilité pour plus tard, donc forcément c'est bon pour le futur, quoi.
D'accord, donc c'est plus un apport humain que vraiment purement voilà. Professionnel, quoi.
Exactement.
D'accord. Et Noémie, un avis?
Je rejoins l'avis de Amy parce que moi personnellement, je sais pas du tout quoi faire plus tard, mais c'est vrai que c'était très enrichissant, ça a beaucoup apporté et tout le monde a apporté quelque chose et je trouve que c'est bien, c'est vraiment bien.
Ben merci pour ce débat. On se retrouve pour un prochain débat ou un reportage sur J'ai des infos. Au revoir.
Bye.